Les podcasts du Collège de France, Histoire.
Bien, bonjour mesdames, messieurs. Je commencerai par vous présenter mes excuses. J'espère que vous ne serez pas troublés par la mauvaise qualité de ma voix, parce que je n'ai pas échappé au rhume cette semaine. Alors, excusez-moi à l'avance si ça n'a pas toute la clarté nécessaire. Alors voilà, nous nous trouvons donc devant la leçon de conclusion. Je voudrais donc tirer les conclusions de l'enquête que nous avons menée sur les âmes préexistantes qu'en investigue Fravachi pendant ce cycle de quelques leçons. Et je vous rappellerai que lorsque je vous ai, lors de la première leçon, exposé le problème, je vous ai dit que la difficulté que notre science avait à aborder le problème des Fravachi tenait au fait que nous étions obligés de choisir trois fois entre trois solutions. Premier problème, l'identification de leur nom. Nous savons maintenant que la question est résolue. Leur nom est un dérivé en ti, un nom d'action, du verbe var, choisir, avec le préverbe fra. Et la restriction de sens implique qu'il s'agit de faire un choix sacrificiel. Choix sacrificiel bilatéral, c'est un choix de la divinité par le sacrifiant, ou c'est le choix du sacrifiant par la divinité, son agréation du moins. Leur personnalité ou leur fonction, à nouveau le choix entre trois solutions. La horde guerrière, disait-on, les âmes des ancêtres, ou une faculté mentale, une sorte d'âme. Je pense, après les examens que nous avons opérés, que ce qui est fondamental, c'est la faculté mentale. C'est une allégorie abstraite, une allégorie métonymique de la personne pensante. Et les seules personnes pensantes au monde, selon la conception avestique, ce sont les dieux et les hommes. Les dieux ont une Fravachi, peuvent en avoir une, comme les hommes ont une Fravachi. Il y a le cas naturellement énigmatique de la vache, qui a une âme. Mais cela, nous ne devons pas entrer tout de même dans trop de nuances. C'est donc une âme, la Fravachi, c'est une âme. C'est la faculté définie par la faculté que tout homme a de faire un choix sacrificiel. Mais c'est une âme qui est valable pour toute la durée du monde, pour l'éternité, si vous voulez. Or, il est bien entendu que l'éternité masdéenne, c'est 12 000 ans. Les Fravachi sont la manifestation humaine qui se développe sur toute la durée du monde. En tant que tel, bien entendu, il y a inclusion des ancêtres, puisque tout le monde a une Fravachi, c'est une âme préexistante, tout le monde a une Fravachi, les morts, nous disent les textes, les hommes vivants et aussi les hommes qui naîtront plus tard. Donc cette masse d'âmes compose naturellement un groupe nombreux, d'où la horde. Et la répartition de ces âmes dans les structures de l'appartenance sociale confère à ces divinités une partialité qui se traduit de la manière suivante. Cette partialité se manifeste surtout dans l'avidité pour un élément rare parmi les nations iraniennes, c'est-à-dire l'eau. Et le culte des Fravachi est étiologique de l'injustice évidente dans la distribution de l'eau lorsque vient la saison des pluies, dans cette incertitude qui pèse toujours sur ce qui va se produire, si il faudra se réjouir d'avoir la bonne année, comme l'on dit, c'est-à-dire l'année où il pleut, ou là, au contraire, s'il faudra subir la mauvaise année, c'est-à-dire l'année où il ne pleut pas. Cette rivalité qu'engendre l'injustice dans la distribution de l'eau se traduit par un affrontement guerrier, sans doute stylisé, interne au corps des Fravachi. Cet affrontement guerrier, avec tout ce qu'il suppose, le tumulte, le bruit des armes, le bruit des roues, des chars, enfin, toutes les résonances particulières qui impliquent un affrontement guerrier, participe à la métaphore de l'orage, hein, du vent d'orage et du tonnerre. Alors, voilà donc, pour résumer, le deuxième choix. Nous n'avons pas examiné le troisième choix. Le troisième choix était de savoir si ces divinités-là sont pré-zoroastriennes, zoroastriennes ou post-zoroastriennes. Vous imaginez bien, vous devinez que je ne vais pas répondre à cette question, mais je vais la poser à ma manière et voir comment nous pouvons procéder à ce qui est, en dernière analyse, une tentative de situer les Fravashi dans l'histoire, hein, dans l'évolution des croyances du mazdéisme. Alors, j'ai pour cela demandé à Céline Redard de préparer quelques textes qui vont être projetés. Il y en a une version imprimée là-bas. Nous allons donc procéder selon par ordre de succession, dans l'ordre chronologique, pour les strates des documents avestiques, des documents mazdéens. Et nous allons commencer par les gathas. Nous avons la chance d'avoir dans les gathas une très belle cosmogonie. Je ne savais pas que je serais amené très rapidement à l'observer une fois de plus avec vous, car j'avais dans le cadre de, je crois que c'est l'an dernier ou il y a 2 ans, je ne m'en souviens plus très bien, j'avais commenté ce texte lors d'une leçon, mais c'était dans un autre cadre, c'était pour discuter une hypothèse du linguiste Calvert Watkins, c'est pas qui voyait dans ce texte une manifestation du vieillard poétique indo-iranien, et j'avais voulu montrer qu'au contraire, il y avait dans ce texte un certain nombre d'innovations conceptuelles. Alors, le Yasna 44, vous savez la projection, si c'est... attendez, je dois donc... projection 1. Ah, oui, c'est vrai, c'est moi qui ai le texte, excusez-moi. Voilà la deuxième partie. Voilà donc le texte. Par chance, ce texte est l'un des plus simples des gathas. C'est un texte qui ne nous pose pas un nombre de problèmes grammaticaux. Il est très clair. Là, je donne donc le texte avec sa traduction. La traduction est une traduction personnelle. C'est celle que j'ai faite, que j'ai refaite. Ce n'est pas celle des textes vieilles avestiques. Je l'ai refaite à l'occasion de ma discussion avec Watkins. Or, vous voyez que cette cosmogonie, ce n'est pas du tout celle que nous raconte la doctrine des quatre âges du monde. En quoi cela consiste-t-il ? La première strophe, ça se présente sous la forme de cette forme rhétorique de l'interrogatoire dont nous avons parlé, ça existe déjà dans les gathas. Le jeu du texte s'adresse à Ahura Mazda et lui pose des questions sur la cosmogonie. Nous n'aurons pas la réponse ici, hein, contrairement à ce qui se passe dans l'Avesta récent souvent, mais ce n'est pas ça l'essentiel. La première étape de la cosmogonie, qui est par engendrement le père premier de l'agencement, hein, donc Asha. Qui est le père d'Asha ? Ensuite, nous avons la fixation qui a fixé de la rotation des corps célestes, qui a fixé le chemin du soleil et des étoiles, et qui fait que la lune tantôt croît, tantôt décroît. La rotation des astres. Deuxième strophe, c'est l'aménagement des trois espaces, l'espace céleste, l'espace intermédiaire et l'espace terrestre. On commence par l'espace terrestre, qui donc a retenu la terre en bas, puis le ciel, représenté par les nuées, et les nues de tombée. Qui a séparé les eaux des plantes, aménagement de l'espace terrestre. La mise en place des mécanismes qui sont observables dans l'espace intermédiaire. Qui a attelé de rapides chevaux le vent et les nuages. Puis, deuxième entité, deuxième immortel bienfaisant, qui est donc le fondateur de la divine ou de la bonne pensée au Mazda. Troisième strophe, c'est la cinquième du texte, mais c'est la troisième de la cosmogonie. Quel bon ouvrier a séparé la lumière diurne des ténèbres ? Ce sont les faces de la lumière, les parties du jour qui sont ici mises en place. Quel bon ouvrier a séparé le sommeil de la veille ? Alors, on a la suite. Qui fait que l'aurore, le midi et la nuit font penser celui qui désire à l'objet de son désir ? Remarquez que il y a retour à la pensée, hein, parce que le verbe « faire penser », c'est le verbe « man », comme l'allégorie de la bonne pensée. Donc, les phases de la lumière, les phases de la journée sont saisies, sont captées par la pensée, qui devient réceptive aux incitations qui vont avec ces différentes époques de la journée. Alors, le texte ici, je n'ai pas tout traduit pour mettre à l'écart ce qui n'est pas purement cosmogonique. Je voulais simplement attirer l'attention sur les passages les plus clairement cosmogoniques. Mais dans la strophe qui suit, il s'agit de... c'est quelque chose de très curieux. C'est la création de la vache. Vous savez que la vache entre dans la chaîne cosmogonique, nous l'avons vu. Mais Kaibio Azim, Ragno Skuritim, Gam Tacho. J'ai traduit avec un peu de distance, mais le sens est exact. Hein. Pour rendre qui plus heureux as-tu charpenté la vache pleine ? Il s'agit de cette vache sacrificielle par excellence, qui est la vache qui porte un veau. Sacrifier une vache grosse, et c'est la victime sacrificielle idéale. Donc, mais ce qui est très intéressant, ce qui est notable ici, il échappe un peu à notre propos, mais il faut noter la ruse, parce que nous allons la retrouver sur tout le parcours. Remarquez que la question a été posée autrement, et que cette question répond à toutes les autres, en fait, puisque la vache, c'est l'œuvre d'Ahura Mazda, c'est ce qu'il dit clairement. Pour qui ? C'est le bénéficiaire, ce n'est plus l'auteur de l'élément cosmogonique qui fait l'objet de la question. Il y a une rupture logique dans le texte. Et la rupture logique, qui ne survient qu'une fois, c'est avec la vache. Alors, maintenant, nous allons arriver doucement à l'homme. Qui charpente la juste pensée ? Troisième immortel bienfaisant, avec la capacité de la rendre admirée. Indépendamment, il ne s'agit plus d'un élément de la cosmogonie, il s'agit d'une manière de procéder d'Ahura Mazda, enfin, on suppose bien que c'est lui, n'est-ce pas ? On évoque dans cette comme manière de procéder la capacité, c'est-à-dire un quatrième immortel bienfaisant, Kshatra, dont le nom figure dans la strophe, la juste pensée, Armaïti, vous trouvez dans la strophe. Ensuite, qui, par intervalle, a mis un fils debout sur la terre pour le Père ? Nous aboutissons ainsi aux générations humaines, hein. Donc là, la cosmogonie est close, les éléments du cosmos sont mis en place, et nous... voilà donc cette... la cosmogonie gathique par excellence. Elle n'est jamais exprimée avec autant de détails et autant de précision qu'ici. Des allusions sont faites ailleurs, mais ce corpus est très explicite. Il n'y a pas ici de grandes difficultés grammaticales. La traduction qui est là, j'en suis l'auteur, mais je ne crois pas qu'elle puisse être, elle n'est pas très originale. Ce texte est trop clair pour qu'il puisse être contesté. Mais vous voyez que cette cosmogonie est une cosmogonie à l'ancienne. Ce pourrait être une cosmogonie, sauf quelques détails sur lesquels nous allons venir, ça pourrait être une cosmogonie sanscrite, védique. Il s'agit de mettre le monde tel qu'il est en place. Ce n'est pas la mise en place d'un monde immatériel, ce n'est pas la mise en place d'un monde matériel immobile, non. C'est un monde qui se met immédiatement à fonctionner. Car le fonctionnement du monde est la partie, est la caractéristique même de cette cosmogonie-là. La rotation des corps célestes, les déplacements du vent dans l'espace intermédiaire, l'alternance des moments du jour, c'est un monde qui fonctionne, un monde qui change. Mais il y a tout de même quelques petits éléments que nous devons ici relever. Premier élément, c'est que ces créations c'est la première chose, c'est qu'il y a une trame théologique. Car à chaque mise en place d'un élément du monde matériel correspond la création, entre guillemets, mais, car les actes créateurs qui sont extrêmement diversifiés dans ce texte, d'un Nameshaspenta, de ce qui sera plus tard un Nameshaspenta, d'une abstraction divine. On voit que l'acte initial, c'est achat, bien sûr, c'est logique, c'est l'entité qui incarne l'ordre du monde, l'ordre cosmique, le principe de l'ordre cosmique est le premier acte de la cosmogonie. Dès lors que les grands espaces de la nature sont mis en place, il est question de fonder une autre entité, la bonne pensée, Vohumana. Et cette pensée devient réceptive aux actes, aux phases de la lumière. Et avant qu'apparaisse l'homme, apparition de l'entité Armaïti, produite avec Kshatra, avec une capacité qui est propre dans la création à Ahura Mazda. Donc il y a une imbrication permanente des divinités immatérielles et des grandes divisions du monde matériel. Il y a une imbrication. Mais ici, ce n'est pas la création du monde immatériel n'est pas déplacée globalement en tant que première phase de la doctrine des quatre âges du monde. Et on voit d'ailleurs que ces créations immatérielles et matérielles qui sont ici imbriquées, contrairement à la cosmogonie du Yajna 13, confluent dans la vache d'abord, et puis dans l'homme. C'est pour ça que je posais la question, bien sûr, de savoir si la vache pense, n'est-ce pas ? C'est là, c'est une question que l'on peut se poser en lisant les textes avestiques. La pensée est-elle accordée à certains animaux ? Mais c'est une question qui est vaine, qui est creuse aussi, mais qui se pose néanmoins dans le cas particulier de la vache, car la vache n'est pas un animal comme un autre. Hein. C'est la bête sacrificielle, n'est-ce pas ? Dès lors, sa pensée revêt, bien sûr, une toute autre importance que cette petite question un peu bête de biologie archaïque qui est de savoir s'il y a une pensée des animaux. Ce n'est pas ça qui est en jeu. Faut-il accorder une pensée à la vache ? Parce que la vache va être sacrifiée. C'est cela qui est en cause. Hein. Nous sommes dans le domaine, bien sûr, des représentations culturelles et non pas biologiques. Mais voici, ça c'est une chose. Et maintenant, quel est le rapport de cette cosmogonie avec le choix ? En apparence, il n'y en a pas. Il n'y a pas de lien établi entre la cosmogonie et le choix. Vous me direz, c'est peut-être normal, étant donné que le mot fravashi, c'est un des préliminaires obligés à toute étude des fravashi, il faut relever que le mot n'est pas attesté dans les gathas. Non, il n'est pas attesté dans les gathas, mais je vous invite à considérer cette strophe hors cosmogonie qui est le Yasna 45.2. Et je l'ai fait figurer sur cette feuille avec le Yasna 26.4. Yasna 26.4 de l'Avesta récent. Souvenez-vous, ce Yasna 26.4, nous l'avons commenté parce que c'est peut-être le témoignage le plus clair que, effectivement, la fravashi est une force mentale. C'est une âme, hein, une force mentale. Nous avons dans ce texte, le texte de l'Avesta récent, rappelez-vous, nous avons l'Ahu, qui est l'état d'existence tout entier, l'âme d'Aina, Baudascha, l'âme mortelle de la perception sensorielle, Urwanemcha, l'âme interne, c'est ce qui est pour nous l'âme par excellence, hein, c'est l'âme qui se sépare du corps après la mort, et puis la Fravashi. Donc, grand rassemblement des âmes dans cette strophe, il n'en manque qu'une, mais elle figure dans un autre inventaire, lui aussi incomplet, c'est l'Ushtana, hein, la deuxième âme mortelle, le mouvement autonome. Donc, nous avons ici le grand rassemblement des âmes. C'est le texte par excellence qui établit que la Fravashi est une âme. Maintenant, regardons la strophe gathique du Yasna 45.2. Nous avons aussi un catalogue. De force mentale ici, Je ne puis pas évidemment conclure de ce texte qu'il s'agit d'une liste d'âmes encore bien plus étoffée que celle du Yasna 26. Non. Mais c'est un rassemblement, au moins, d'abstractions métonymiques de la pensée. Alors, Manor, c'est au pluriel parce que ça concerne deux personnes. Et selon l'accord de nombre, n'est-ce pas, c'est exactement le contraire de ce que nous ferions en français, hein, on va dire l'âme des morts. En avestique, on doit nécessairement dire les âmes des morts. Il y a accord de nombre. N'est-ce pas ? Si les entités concernées sont plurielles, il faudra mettre tout au pluriel. Donc ici, pluriel. Les pensées, manas. Sungha, la capacité à qualifier quelque chose. Donc, percevoir la qualité de quelque chose, le jugement sur la qualité de quelque chose. Ça n'a plus la même importance dans l'Avesta récent. Ce mot Sungha est un mot par excellence vieil avestique, gathique surtout, mais qui a des résonances rituelles, bien sûr, car faire un Sungha sur la divinité, c'est un acte rituel. C'est réciter un texte où les qualités de la divinité sont énoncées. Kratu, je l'ai commenté assez souvent au séminaire, c'est un mot qui désigne la faculté d'utilisation optimale d'une faculté. Lorsque Darius dit qu'il est bon cavalier, qu'il sait juger des choses, il parle de son kratu. Il manifeste la capacité optimale d'utilisation de certaines facultés. Le kratu. Ah, alors voici un mot intéressant, varana. La capacité à faire un choix. Mot presque exclusivement vieil avestique et à l'intérieur du vieil avestique, presque exclusivement gathique. Nous le verrons réapparaître, mais en moyenne avestique. Varana, le choix, la capacité de faire un choix. Et puis, on reprend dans la foulée, c'est greffé sur la pensée, la triade du comportement, nos paroles, nos actes ou nos gestes, si vous préférez, Shartana, et puis les deux âmes. Daina, l'âme féminine pérégrinante, et Urvan, l'âme interne. Voilà, un rassemblement curieux. Hein, il faut bien voir que je crois qu'un texte comme celui-ci, si on le met en regard du Yasna 26.4, nous apprend certainement quelque chose, n'est-ce pas ? C'est que il existe une... Ce n'est pas démontrable à 100%, bien sûr, mais ceci nous fait tout de même une grave suggestion. N'est-ce pas ? N'y a-t-il pas entre le Yasna Haptankaiti et les Gata, une simple divergence dialectologique, lexicale. Et lorsque l'on parle de la faculté de choix, est-ce que le Yasna Haptankaiti ne dit pas Fravashi, là où les Gata disent Varna. Attention, dites Varna. Je vais dire Varna parce que le A est une voyelle d'appui, c'est une épenthèse, le A interne, donc le Varna. La capacité de choix. C'est un dérivé de la racine var aussi, bien sûr. Ceci, maintenant, est sans rapport avec la cosmogonie. Eh bien oui, nous sommes à nouveau devant un de ces petits problèmes absolument désolants que pose parfois l'avestique. Il y a ici un verbe dire, marawat. Alors, qui parle à qui ? Question de dire quoi à qui ? Depuis le commentateur de l'Avestique récent, qui utilise souvent ce passage, jusqu'aux traductions des Gathas qui ont précédé celles que j'ai faites avec Éric Pirard, il est entendu qu'il s'agit ici d'un discours que le bon Manu, vous voyez, les noms des deux Manu figurent dans le premier vers, Manu, le bon Manu tiendrait ce discours au mauvais et lui dirait en quelque sorte ni nos facultés d'eux, ni nos facultés d'eux, etc., tous les mots que je viens de commenter, ne sont en harmonie. Hachainte. Donc, nous avons des âmes totalement distinctes. C'est une déclaration de rupture initiale, donc cosmogonique, entre les deux manus. Telle est l'interprétation qu'en fait le commentateur de l'Avesta récent. Et ça paraît tellement beau, tellement clair, que c'est reçu par l'érudition contemporaine. Mais il y a un problème tout à fait, je vais dire, bête, n'est-ce pas, mais qui nous empêche d'être sûr, et même qui nous oblige à douter de cette solution, c'est que le verbe « dire » ne se construit pas avec l'accusatif de l'interlocuteur, mais le datif. Dans tous les dialectes iraniens, depuis le gathique au sanskrit le plus moderne, en passant par le Rig Veda, l'interlocuteur, n'est-ce pas, est désigné par le datif dans la syntaxe du verbe « dire ». Or, ici, s'il s'agit d'un discours que le bon esprit tient au mauvais, bien nous sommes obligés d'admettre que le mauvais Maniou, en tant qu'interlocuteur, est représenté à l'accusatif. Ça, c'est une difficulté. Seulement, si on traduit en se laissant porter par le texte tel qu'il est, c'est la traduction des textes vieilles avestiques, c'est pas joli, c'est pas beau. Et on ne comprend pas très bien de quoi il est question. Une autre difficulté qui compromet la portée cosmogonique de ce texte, c'est la forme verbale moravate. On comprendrait que, pour se référer aux actes cosmogoniques, n'est-ce pas, il soit question, bien sûr, d'utiliser le verbe « dire » au passé. Si c'est la cosmogonie, c'est logique. Oui, mais le problème est que « moravate », si on le prend tel quel, il est bel et bien un subjonctif présent. Donc, il exprime d'une certaine façon, avec des nuances, bien sûr, un procès inachevé, quelque chose qui se rapporte au futur. Voilà la difficulté. Donc, je ne suis pas en mesure de certifier que ce texte se rapporte à la cosmogonie. Dès l'Avesta récent, les commentateurs l'ont compris comme ça. Ils l'ont compris comme ça. Mais nous avons pu le déterminer lors des cours de la saison dernière. C'est le propre des commentateurs de l'Avesta récent d'insister, de mettre l'accent sur l'organisation cosmogonique du texte de l'Avesta ancien. Dès lors, cela peut être une spéculation innovante. Donc, ici, scepticisme, si vous voulez bien. Autre question que l'on peut poser à cela, est-ce que le choix est un acte préalable à la cérémonie sacrificielle pour les gata? En d'autres termes, est-ce que lors de la cérémonie sacrificielle, à quoi les gata correspondent et que nous ne connaissons pas? Car l'insertion des gathas à l'intérieur de l'Avesta récent a désarrimé le texte des gathas de la vieille cérémonie pour laquelle elles avaient été composées. C'est des textes qui sont tirés de leur contexte rituel ancien, à la manière des hymnes du Rig Veda, pas totalement aussi séparés de leur contexte rituel pour être insérés dans le grand rituel brahmanique des siècles plus tard. C'est exactement la même situation. Donc, par rapport à la situation rituelle des gathas, doit-on conclure que l'acte de choix joue le rôle d'un préambule nécessaire, comme dans l'Avesta récent? Ici aussi, je répondrai avec un certain scepticisme. Ce n'est pas en fonction de difficultés grammaticales comme dans le Yasna 45.2. C'est à cause de l'irrégularité des sources, en quelque sorte. Il y a cinq gathas. Eh bien, dans deux de ces cinq gathas, l'idée de choix est évoquée dans la première strophe. N'est pas évoquée sous une forme verbale. Il n'est pas question d'un récitant, d'un zautar, qui prononce « je choisis deux ». Ce n'est pas cela, mais l'on nous dit que certains éléments de la cérémonie sacrificielle doivent être choisis, dérivés du verbe « var », et il s'agit du verbal d'obligation, « vairia »,« vairia », ce qu'il faut choisir. Que faut-il choisir? Eh bien, Yasna 27.13, qui est en réalité la première strophe de la première gatha, c'est la « una vairia », nous le connaissons, il faut choisir le ratu et le kshatra des actes sacrificiels. Et le donner à Mazda. Il faut le choisir et le donner à Mazda. L'interprétation est difficile. Bon, je vous donne mon interprétation, qui est ici tout à fait personnelle. L'impression est qu'il s'agit de choisir le ratu, c'est-à-dire le cursus des actes sacrificiels, et le kshatra, le pouvoir de ces mêmes actes, le pouvoir que ces actes ont sur la divinité, et les appliquer à Mazda. C'est un acte préliminaire, oui, Mais les autres gathas n'en parlent pas de manière aussi claire. La quatrième gatha, 51.1, contient aussi le mot Vairya, dans la première strophe. Peut rien dire d'autre, n'est-ce pas? Donc, alors voilà, nous avons fait le tour de la situation dans les gathas. Je pense que nous pouvons conclure qu'il y a effectivement une divergence lexicale entre deux écoles mazdéennes anciennes, entre les deux écoles mazdéennes anciennes, et que la faculté humaine de choix ne s'exprime pas par le même mot dans les gathas et dans le Yasnahabdhankaiti. Dans les gathas, cette faculté de choix est assumée par le mot varna, le choix, et par le mot fravashi dans le Yasnahabdhankaiti. Alors, si vous voulez bien, après le commentaire sur ce texte, nous passerons au Yasnahabdhankaiti lui-même. Je vous rappelle, pour bien saisir la portée du texte que je vous montre, que le Yasnahabdhankaiti, sacrifice en 7 chapitres, va du Yasna 35 au Yasna 41 inclus. Il y a deux chapitres sur les 7, deux chapitres d'introduction, l'un qui est consacré aux actes du culte, et le deuxième à l'installation du feu rituel. C'est même une grande particularité du Yasnahabdhankaiti. C'est le seul texte ancien en avestique que nous connaissions qui nous parle de l'installation du feu rituel. Les autres n'en parlent plus parce que, sans doute, la pratique s'est modifiée. Et pour les chantres de l'Avesta récent, on ne parlera pas de l'installation du feu rituel parce qu'on ne peut rien dire et rien faire avant que le feu soit installé. On ne peut commencer à parler que quand le feu est là, ce qui nous prive d'informations sur tous les procès qui aboutissent à l'installation du feu. Mais ici, ce ne sera pas lu. Donc, les deux premiers chapitres sont d'introduction et puis les deux derniers consistent en une suite de demandes et d'éloges adressés à Ura Mazda. Le sacrifice proprement dit, le passage où le chantre collectivement, la première personne du pluriel, collégial, le Yasnahabdhankaiti, contrairement au Gatha, dira « nous sacrifions », eh bien, c'est les trois chapitres centraux, 37 à 39. Et le premier de ces chapitres est, dans son ensemble, premier lieu, bien sûr, consacré à la grande divinité, à Ura Mazda lui-même. Alors, ce que vous avez ici, avec un passage que vous connaissez bien, je l'ai commenté quand je vous ai expliqué que, contrairement à ce qu'on a cru pendant longtemps, le mot Fravashi apparaissait bien dans l'Avesta ancien, mais il est remis en situation. Nous avons là ce qui encercle tout le bloc consacré à la déclaration sacrificielle adressée à Ura Mazda. N'est-ce pas ? Voilà, comme cela, Ita, c'est... Il reviendra à la fin, en conclusion de tout le sacrifice. Là, ça concerne tout le passage des trois chapitres. Nous sacrifions à Ura Mazda, qui a mis à leur place, alors, la cosmogonie, la vache et l'harmonie, c'est-à-dire la vache et un chat. Mis à leur place les eaux et les bonnes plantes. Mis à leur place le ciel, la terre et toutes les bonnes choses. Et j'ai suppléé intermédiaire parce que des passages parallèles de l'Avesta récent impliquent que toutes les bonnes choses se situent dans l'espace intermédiaire. Donc, j'ai fait intervenir peut-être à tort, mais un élément de commentaire dans la traduction. Bon, ça, on peut en juger comme on souhaite. Voilà les éléments de la chaîne cosmogonique que nous avons observée dans le Yasht 13. Hein. Le ciel, il est représenté, je l'ai traduit par le ciel, ça peut aussi, il est représenté par le mot Raucha, qui signifie en réalité la lumière. Et puis la terre, Bhumim, l'espace intermédiaire représenté par toutes les bonnes choses. Toute la chaîne cosmogonique du Yasht-13 est représentée, mais dans un désordre saisissant. Hein, ou plus exactement, sans logique chronologique même, puisque la vache, de façon extrêmement frappante, est le premier élément de la cosmogonie qui soit mentionné. Et vous voyez qu'il n'est pas non plus... d'une logique souveraine, de faire figurer les eaux et les plantes avant la terre qui est évidemment l'élément qui conditionne la végétation et les espèces animales. Donc il y a un désordre dans la chaîne cosmogonique, dans le Yasna Aptankriti. Je ne l'interpréterai pas, je ne sais rien, mais je fais remarquer une seule chose, c'est à propos de la vache. Je la ferai encore remarquer. C'est toujours lorsqu'il est question de la vache que nous trouvons une anomalie. La rupture logique du Yasna 44, où brutalement on semble savoir qui est l'auteur de la cosmogonie, et on lui attribue la création de la vache et on pose la question sur le et on déplace la question sur le destinataire. On ne fait ça avec aucun autre élément cosmogonique, mais avec la vache uniquement. Ici, c'est la place de la vache qui est l'énigme, n'est-ce pas ? C'est la place de ce que nous appellerions une anomalie, mais en est-ce une. Bon, donc la chaîne cosmogonique, je vais dire traditionnelle, celle que nous repérons partout dans l'Avesta récent, est en place. Elle est criée dans l'Avesta ancien en prose. Et puis, glissons à la fin de la déclaration sacrificielle pour Ahura Mazda. Pour Ahura Mazda. Alors, nous lui sacrifions à lui, Ahura Mazda. Et j'ai discuté le problème de Fravachige. Admettons un instant que j'ai raison, qu'il s'agisse bien d'un instrumental pluriel, et puis des difficultés. Lui sacrifions, dit faire consécration, c'était la vieille traduction des textes vieilles avestiques, on va retenir sacrifier. Nous lui sacrifions au moyen de nos fravachis. Alors voilà un texte évidemment beaucoup plus ramassé que celui des Gathas. Et comment pourrions-nous caractériser ce qui est la cosmogonie qui apparaît dans ce texte, qui est certainement pas plus récent que le texte des Gathas. La seule différence perceptible pour nous, c'est qu'il est en prose, alors que les Gathas sont en vers. Soit dit en passant, ne vous posez pas trop de questions, mais ça, rapport au vers, s'il y a une virgule de temps en temps dans le texte que je vous ai fait remettre, c'est la césure. Donc c'est la marque visible du vers. Je l'ai fait figurer par une virgule. Donc les Gathas en vers, le Yasna Aptankriti en prose. Alors, qu'allons-nous dire ? Bien que la chaîne cosmogonique classique de l'Avesta récent est constituée, ça je voulais faire marquer, elle est mise en rapport avec l'acte sacrificiel, avec Yasamaide, puisque dès la première strophe, 37.1, la déclaration sacrificielle, le sacrifice que l'on rend à Ahura Mazda, n'est-ce pas, il semble avoir pour justification, ce choix, non, je ne dirais pas choix parce que le mot n'est pas utilisé dans le texte et je ne veux pas crier, pas donner un coup de pouce, mais cette déclaration adressée à Mazda, elle est justifiée par le fait que Mazda est l'auteur de la cosmogonie. Il est avec notre logique, n'est-ce pas ? Mais malheureusement, les textes indo-iraniens anciens ne manipulent pas, je vais dire, les subordonnés circonstanciels avec autant de prédilection que nous, pas, mais nous pourrions, avec certaines, tout à fait légitimement, traduire, nous lui sacrifions parce qu'il l'a, n'est-ce pas ? Mais cela, c'est une façon de présenter les choses que la rhétorique indo-iranienne ancienne n'a pas développée. Préférera la simple relative qui, bien sûr, gomme tout rapport circonstanciel entre la principale et la subordonnée, mais peu importe. Et puis, ensuite, moyen de ce sacrifice, apparaissent la série des âmes, Ujtana, etc., et le mot Fravashi, moyen de, avec nos choix sacrés, avec nos facultés de choix sacrificiel. Donc, on voit se constituer une sorte de globalité entre la cosmogonie, le sacrifice et le choix sacrificiel. Les trois ingrédients sont réunis dans le Yasna Aptankriti. Ils ne le sont pas dans les Gathas. Maintenant, est-ce que dans le Yasna Aptankriti, l'acte de choix sacrificiel est un préalable absolu de la cérémonie elle-même ? Est-ce que lorsque le Yasna Aptankriti s'ouvre, y a-t-il une déclaration de choix sacrificiel ? Eh bien, oui. Eh bien, oui. Le Yasna 37.3, qui est la deuxième strophe, parce que le 1 est une introduction en avestique récent, le Yasna 35.3 contient une déclaration à la première personne du pluriel, Varmaïdi. Varmaïdi. Nous choisissons, nous faisons le choix. C'est la deuxième strophe du Yasna Habdan Kaïti. Et nous faisons le choix non pas de la divinité cible, hein, ça c'est le problème du texte que nous avons, mais de faire le choix de la bonne triade sacrificielle, c'est-à-dire les bonnes pensées, les bons mots, hein, les bons textes et les bons gestes sacrificiels, les bons actes. Mais il y a, même si cela ne s'applique pas aux destinataires du sacrifice, une déclaration de choix préliminaire, hein, dans le Yasna Habdan Kaïti. On se rapproche, évidemment, du système de l'Avesta, de l'Avesta récent. Alors, troisième passage, le Yasna 12. Le Yasna 12. Rappelez-vous, situation du Yasna 12, je me suis obligé à nouveau de faire quelques rappels. Lorsque j'ai consacré, il y a 2 ans, quelques leçons au Yasna 12, c'était afin de porter un jugement critique sur une hypothèse qui avait été défendue au colloque iranologique de Ravenne en 2004. C'était à cette époque, donc très nouveau, où Xavier Tremblay, que certains d'entre vous connaissent bien, qui est parfois parmi nous, avait émis l'hypothèse que ce que les grammairiens les plus pointus, l'école d'Erlangen par exemple, considéraient comme du pseudo-gathique, c'est-à-dire des textes en Avesta récents auxquels on avait, par une série d'artifices, voulu donner une certaine forme archaïque qui, visant à évoquer la langue des Gathas, n'était pas du tout une langue artificielle, n'avait pas été maquillée, mais au contraire qu'il s'agissait d'un état de langue moyen entre le vieil avestique et l'avestique récent. Et Tremblay avait proposé, ça allait de soi, de définir cet état de langue comme le moyen avestique. J'avais certaines divergences de vues avec Tremblay sur les caractéristiques linguistiques qui permettaient de tirer cette conclusion. Mais je n'en ai aucune sur le plan des principes. Je suis convaincu que Tremblay a raison, que le Yasna 12 et le Yasna 56, peut-être le Yasna 58, sont bel et bien des textes moyen-avestiques, c'est-à-dire des textes intermédiaires entre l'Avesta ancien et l'Avesta récent. Donc, nous allons. Le texte du Yasna 12 que nous avons ici a été introduit dans le Yasna afin de porter l'expression du choix rituel. Nous avons, il y a deux ans, observé comment, dans tout ce début du Yasna, les officiants construisent progressivement leur personnalité sacrificielle, et boire le haoma, etc. Je n'y reviens pas, j'ai d'ailleurs fait allusion, mais doucement, ils se mettent en condition, hein, comme des sportifs si vous voulez, mais se mettent en condition de prononcer le choix rituel. Et ce choix rituel, il est confié à un texte moyen-avestique que l'arrangeur du Yasna a introduit dans sa grande liturgie, c'est-à-dire le texte que nous appelons par son premier mot, Fravarané, c'est-à-dire « je choisis, je choisis ». Oui, cela, c'est la réalité du Yasna. L'arrangeur du Yasna a retenu un texte moyen-avestique, c'est-à-dire d'un état de langue qui est beaucoup plus ancien que Louis, pour exprimer la nécessité d'un moment dans les préliminaires du sacrifice d'exprimer ce qui est le choix que l'on peut faire, le choix de la divinité cible. Car maintenant, c'est la divinité cible, hein, qui est concernée. Ben, voilà ce que je... Rendre le sacrifice, je choisis de rendre le sacrifice à Ahura Mazda, Mazda Yasnu, Mazda Yasnu. Donc, le premier mot, Fravarané, je choisis, plus exactement, je veux choisir, ce qui est... Bon. Et deuxième mot, Mazda Yasna, hein, la qualité de celui qui rend le sacrifice à Ahura Mazda. Mais observons ce texte en soi, n'est-ce pas, non pas comme un élément du Yasna, non pas dans le cadre même du Yasna. Oh, c'est un texte qui exprime le choix sacrificiel. Dans quel contexte était-il situé à l'époque où on l'a composé, ou plus exactement, pour le mettre dans quelles conditions l'a-t-on composé? Ça, nous ne le savons pas. Mais c'est en tout cas l'expression même du choix rituel. On ne peut pas être plus clair, n'est-ce pas? Ici, la déclaration est absolument dépouillée et claire. Alors, les deux strophes que vous avez devant vous, les deux strophes du Favarané que vous avez devant vous, comme celle du Yasna 37, c'est le début et la fin. C'est le début et la fin du texte. Je me fais remarquer qu'il y avait une superbe construction au miroir, Favarané Mazda Yasno, pour commencer, Mazda Yasno Ahmi, pour finir, et qui consacrait le passage de l'intention à la réalité. Je veux choisir d'être Mazda Yasna, tout un discours, hein, et les derniers mots constatent la réalisation de l'intention. Je suis Mazda Yasna, hein, avec le renversement des deux termes, d'ailleurs, du verbe et de l'attribut. Je suis Mazda Yasna. Oui. Seulement, ici aussi, à la manière d'une justification, à la manière d'une proposition causale, cette décision de choisir le sacrifice réservé à Ura Mazda, n'est-ce pas? Il fait l'objet d'une doctrine. Ça, c'est le tchish, ou Ahura Kaisha, le mot de Kaisha dans le quatrième mot. C'est l'allusion à un corps de doctrine, et le verbe chinarmi, chinarmi dans le quatrième vers, c'est-à-dire j'ai pour doctrine que. Et ce qui exprime cette doctrine, c'est bien sûr qu'Ahura Mazda est l'auteur de la cosmogonie. À lui existe tout ce qu'il y a de bon. Ça, c'est le cinquième vers. Yazi chicha. Non, excusez-moi. Dans la traduction est correcte. C'est Yazi chicha vahishta yenghe gauche. La vache qui est si bonne, qui est très bonne. La vache. Il aimante la cosmogonie. Asha. C'est l'ordre du Yasna Haptankaiti. C'est l'ordre de la cosmogonie du Yasna Haptankaiti. Asha, l'harmonie du monde. Et les lumières, le ciel. Le mot qui supplée à l'expression du ciel dans le Yasna Haptankaiti. Ce n'est pas complet, non, mais on complétera. On complétera dans la dernière strophe. Ce que nous avons ici, ce sont les entités matérielles ou immatérielles. Immatérielles pour Asha, céleste en tout cas, pour la lumière. Mais regardons maintenant la dernière strophe. En fonction de ce choix, le choix qu'ont fait les eaux, en fonction du choix qu'ont fait les plantes, en fonction du choix qu'a fait la vache, et puis des dieux et des hommes, en fonction du choix qu'a fait Ahura Mazda, qui a créé la vache, qui a créé l'homme, qui a rendu l'homme à Chavan, en fonction du choix qu'a fait Zarathustra, en fonction du choix qu'a fait le Kavi Vishtaspa, en fonction du choix qu'ont fait les deux frères Frashaustra et Jamaspa, que nous avons commenté la leçon dernière, hein, en fonction du choix qu'ont fait tous les Saushyant, traduis pas tous les mots, eh bien, en fonction de ce choix-là, hein, je suis Mazda Yasna. Je suis quelqu'un qui réserve son sacrifice à Ahura Mazda. Oui, eh bien, remarquez que ce n'est pas le mot fravashi qui est utilisé, quoique le préverbe fra apparaisse avec le verbe fravarané, hein, ce qui n'est pas dans Varmaidi du Yasna Hamtankaiti, mais le terme pour désigner la faculté de choix, c'est le terme gatique. C'est le terme gatique. Je vous disais tout à l'heure que le mot varna était un mot exclusivement gatique, était un mot presque exclusivement gatique. Eh bien, oui, ailleurs que dans l'Avesta ancien, il n'apparaît qu'ici, en moyenne avestique. Ce qui nous laisse penser que terminologiquement, ben, le Fravarané, ce texte moyenne avestique, se situe dans la tradition gatique et non dans la tradition aptahatique. C'est Varna qui assume l'expression du choix rituel comme entité nominale. Fravar comme entité verbale. Mais alors, il y a le cas de la cosmogonie. Il y a le cas de la cosmogonie. Vous voyez qu'elle est scindée. La vache, Asha et le ciel, les lumières, figurent dans la première strophe. Leur fondation est une raison d'émettre l'intention de rendre le sacrifice à Mazda. Et les autres éléments de la cosmogonie du Yasna Haptankaiti, donc de la chaîne cosmogonique classique, nous les trouvons dans la dernière strophe, dans la clôture, qui s'achève par le passage de l'intention à la réalité. Les eaux, les plantes, la vache, et puis les hommes, hein, les hommes, disons. Mais, bien, alors, voilà, donc, d'une certaine manière, nous avons une situation qui est classique du Fravaranais. Le Fravaranais se distingue par une sorte d'équilibre que je tendrai à juger volontaire. On ne peut jamais être certain de ces choses-là. Par une sorte d'équilibre soigneusement pesé, en tout cas, pour exclure le mot d'intention, entre les éléments de tradition gathique et les éléments de tradition haptahatique. Qu'est-ce qui appartient au gatha ici? Le mot varna. Qu'est-ce qui appartient au yasna haptankaiti? Oh, il y a bien d'autres choses encore qui ne nous concernent pas, vous savez. Mais il y a en tout cas cela. Eh bien, la chaîne cosmogonique. La chaîne cosmogonique, elle l'est rompue. Hein, elle l'est rompue. Et vous remarquerez, troisième anomalie à propos de la vache, troisième anomalie, c'est que la vache figure dans les deux chaînes. La vache est répétée, elle est dédoublée. Ce n'est même pas exact, elle est en réalité détriplée parce qu'elle est mentionnée à l'intérieur, hors contexte cosmogonique. Mais en tout cas, du point de vue cosmogonique, la vache est dédoublée. Elle figure dans la première et la deuxième strophe. Troisième anomalie, hein, concernant les mentions de la vache dans nos textes. Alors, ce que nous avons ici me paraît vraiment très intéressant, parce qu'on aperçoit ici que les ingrédients que nous cherchons sont véritablement réunis. Le sacrifice, hein, le sacrifice, certes, on ne dit pas, Yazamaïdé, mais Mazdayasno, c'est très clair. Hein, c'est le choix sacrificiel de Wamazda qui est en course. Yasna, hein, dans le composé Mazdayasna. Donc, le sacrifice, la cosmogonie et le choix. Les trois éléments sont réunis comme ils seraient réunis dans le Yasht 13. Alors, on voit se mettre en place, je crois, progressivement, à travers ces trois strates anciennes de l'Avesta. Avesta ancien gathique, Avesta ancien haptahatique, moyenne avestique. On va se mettre en place la doctrine des Fravashis que nous avons observée dans le Yasht, dans l'hymne qui leur est consacré, dans le Yasht 13. Ce qui nous fait défaut, c'est évidemment la mise en rapport avec la doctrine des âges du monde. Ça, nous n'en voyons pas les traces, hein, dans les gathas de manière très, très, très claire, de manière très significative, puisque les gathas dépeignent une cosmogonie qui exclut, hein, les stades de la cosmogonie qui est celle de la doctrine des millénaires. Le Yasna Haptankaiti et le Fravaranais sont des textes trop dépouillés pour que nous disions cela. Mais tout de même, il marque un tournant vers cette représentation en ce que le schématisme, n'est-ce pas, des éléments cosmogoniques est, lui, en train de se constituer progressivement. Alors, je voudrais faire quelques petites réflexions final sur ce que nous venons ensemble d'essayer de déterminer, c'est que les Fravashis du Yasht 13 sont indissolublement liés, comme je dis, sinon à la doctrine des millénaires, du moins à une doctrine des quatre âges du monde. Alors, la spéculation initiale, c'est que le choix n'est pas seulement un préambule du sacrifice, mais il est aussi un préambule de la cosmogonie. C'est la spéculation initiale, la spéculation de nature théologique initiale qui a donné naissance au corps des Fravashis tel que nous le connaissons. L'originalité de cette spéculation, c'est de poser en doctrine que le premier choix sacrificiel qui a été fait est consubstantiel de la cosmogonie. Et consubstantielle de la création du monde. Dès lors, nous avons à la base de ceci, je pense, une représentation terriblement spéculative, terriblement savante. Alors, les yachts, c'est bien connu, celui des Fravashi ne fait pas exception à la règle, sont malgré tout des textes extrêmement narratifs, et même si on veut bien leur accorder, des textes colorés, pourquoi ne pas le dire, hein, des textes où il y a une certaine couleur poétique. Eh bien, cela, semble-t-il, correspond, et Paul Thiem l'avait vu pour Mitra, non pas à des restes de mythologie, non pas à un retour vers une mythologie que l'âge vieil avestique avait oublié, mais à une remythologisation. Tim disait, nous voyons dans les yachts une mythologie en train de se faire. Hein, mythology in the making, disait-il. Moi, je dirais une remythologisation. Ben, les vieux mythes ont été refaçonnés, remembrés par la spéculation théologique. Et une fois cette opération menée à bien, il y a eu remythologisation. Il est possible que cette mythologisation corresponde à la récupération de vieux motifs. Dans le cas spécifique des Fravashi, je vous citerai, nous l'avons vu, le sacrifice primordial. Hein, sacrifice primordial, l'âme des ancêtres aussi, l'âme des ancêtres, bien sûr. Ou bien les danseurs exubérantes l'orage, hein, dans ce qu'ils rappellent les maroutes. N'est-ce pas ? Mais en dépit de cela, ce ne sont pas... ce n'est pas le schéma, dialectique, hein, à quoi correspond finalement pré-zoroastrien, zoroastrien, post-zoroastrien qui prévaut. Hein, on dirait la thèse pré-zoroastrienne, l'antithèse zoroastrienne, puis la synthèse post-zoroastrienne. C'est pas ce schéma dialectique qui prévaut, c'est autre chose. N'est-ce pas ? Ce n'est pas un retour au passé, c'est quelque chose de nouveau qui commence. C'est une opération nouvelle et originale. On n'est pas revenu au passé. On a subi le passé qui a été la spéculation sur les quatre âges du monde. Et puis, un nouveau travail de mythologie s'est mis en branle et qui a créé un nouvel alliage, une nouvelle synthèse entre les croyances religieuses et l'imagerie poétique, ou pour reprendre ici aussi, certains mots de Thiem, entre la logique religieuse et l'imagination religieuse, disait Thiem. Et le yacht 13, c'est de cela, n'est-ce pas ? C'est de cela qu'il nous parle, c'est de cela qu'il nous montre plus exactement. Alors, vous voyez que ce que nous sommes en train de dégager depuis maintenant 2 ans, c'est que quand on parle de mazdéisme ou de zoroastrisme, ce n'est pas quelque chose qui tombe... tout cuit et tout habillé, tout pied en cap, c'est pas de la cervelle d'un fondateur. C'est une construction sur la durée. Et je pense que le poète Degatta avait entamé quelque chose. Nous avons vu cette imbrication dans la cosmogonie de l'apparition des entités divines immatérielles et de la mise en place des grands secteurs de la nature. Il avait entamé cela, bien sûr, n'est-ce pas ? Mais le spéculateur qui a mis au point la doctrine des âges du monde, n'est-ce pas ? C'est un créateur tout aussi important pour la doctrine. Il ne revient pas au passé, il crée quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau à partir de quoi l'imagination poétique va à nouveau fonctionner. C'est une création sur la longue durée. Alors pouvons-nous la dater ? Je terminerai par là. Eh bien, vous savez que les listes des rois mèdes d'Aristote comportent un certain Fraortès. Signifie donc Fravarti, n'est-ce pas ? Le mot est d'ailleurs cité par Darius, qui en même temps confirme que c'est un nom que l'on aimait porter dans la famille royale de Médie. Alors, en combinant plus ou moins les éléments d'Hérodote, ce roi mède Fraortès, où faut-il le situer ? Eh bien, on peut le situer environ, hein, parce que c'est une estimation, un siècle avant Darius, c'est-à-dire à la fin du 7e siècle. Naturellement, le mot existait, il était connu, il était suffisamment important pour qu'un roi mède le prenne probablement comme nom d'intronisation. Ce n'était probablement pas son nom. C'est probablement un nom du type Benoît XVI, hein, un nom d'intronisation. Bon, donc, il fallait que ce soit important, n'est-ce pas, Mais, à nouveau, le petit détail qui nous empêche d'être très précis, c'est le suivant. Est-ce un théophore pur ? Dès lors, nous ne pouvons pas savoir si ce monsieur s'appelle Fravarti, parce qu'il aura un hommage spécial à une entité ou à une allégorie qui s'appelle Fravarti. Nous ne pouvons pas décider si ce sont des divinités déjà fort individualisées, comme dans l'IH de 13, ou si c'est au contraire un rapport à la faculté de choix sacrificiel, simplement. Il y a quelques éléments qui nous permettent de penser, par contre, que ce n'est pas un théophore, mais un nom court, parce qu'il est attesté plus tard, c'est-à-dire un nom qui est réduit à son premier terme. Et que le second terme, là, nous l'avons dans les papyrus araméens d'époque achéménide, c'est Fravartipata, celui qui est protégé par les Fravachis. Si c'est un nom court de ce type-là, alors ce sont bien nos divinités du IH de 13. Et tout le processus d'élaboration que nous venons de restituer devait être acquis. Acquis, hein, à la fin du 7e siècle avant notre ère. Voilà une datation. Alors, allez dire après cela que le Zarathoustra des Gata a vécu 258 ans avant Alexandre. Ah, bien. Alors, je vous remercie de votre attention. Mais si vous avez une question, nous avons tout de même un peu de temps. Je sais, ce n'est pas de tradition de poser des questions après les cours, mais pour le dernier cours, oui. Hein, si vous avez une question à poser, je suis à vous. Oui, je vous en prie.
Le choix est une évidence. En fait, c'est le choix de ce que l'on fait. Sartre a dit, je crois que toute personne est un choix absolu de soi. Est-ce qu'on peut arriver à concilier, à votre avis
On ne peut pas être aussi moderne, bien sûr. Et alors, il faut contextualiser. Il faut contextualiser. Nous, ici, c'est un principe rituel. C'est un principe sacrificiel. Mais c'est vrai, on peut se poser une question philosophique, hein, on peut l'engager dans une philosophie, mais c'est un autre travail, bien entendu, n'est-ce pas, de savoir, bon, alors il y a autre chose, c'est que sur ce fameux débat où l'on parle du choix mazdéen, qui serait quelque chose comme le libre arbitre ou autre chose, il faut tenir compte d'un autre verbe, c'est le verbe « vi-chi », qui veut dire « faire la différence ». C'est aussi un mode de choix, si l'on veut faire la différence entre deux choses, parce que, bien sûr, pour choisir, il faut voir la différence, il faut... Et c'est lié, n'est-ce pas ? C'est lié à la doctrine de Manu, etc. Mais le cadre où cela s'exprime, c'est le cadre sacrificiel. Et c'est la constitution, très importante, dans ce même cadre, de ce que les Indiens védiques ont appelé le pravara, c'est-à-dire la chaîne qui va du premier sacrifiant au dernier, hein, oui, où le sacrifiant d'aujourd'hui doit s'introduire, bien sûr. Si. Oui,
je vous en prie.
Parce que c'est ce qui caractérise les Fravachis par rapport aux autres âmes, c'est qu'elles sont préexistantes.
Préexistantes à quoi ?
Préexistantes à l'homme matériel, à la naissance de l'homme. À la naissance de l'homme. Et c'est la singularité du motif dans le cadre indo-iranien. Nous n'avons rien de pareil en Inde, nous n'avons probablement rien de pareil dans les Gathas, ni même dans les Yasnahaptankaiti. Ben, c'est dans le Yashto Fravachi que brutalement cette idée apparaît. Et c'est lié, bien sûr, aux âges du monde, hein, à la représentation des âges du monde. Je vous remercie. Merci.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.